La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction, c'est-à-dire les avertissements de ton père, et ne rejette pas l'enseignement, c'est-à-dire les conseils de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure, c'est-à-dire un collier pour ton cou. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois nous en remettre entre tes mains, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions découvrir, Seigneur, en ce jour de la fête des moments, combien, Seigneur, tu es bon envers chacun de nous, et que tu pourvois non seulement à tous nos besoins physiques, matériels, mais aussi à tous nos besoins affectifs et spirituels. Seigneur, que tu puisses nous remplir, Seigneur, ce matin, de ta présence, Seigneur, que tu puisses nous fortifier par ton Saint-Esprit, et Seigneur, que nous puissions partir de ce lieu, le cœur réjoui, parce que tu nous auras visités tous et chacun, sans exception. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons. Le peuple de Dieu dit Amen. Le livre des Proverbes commence ainsi. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Hein, au verset 1. Et Salomon était le fils d'un grand roi et le fils d'un grand roi. Il fut célèbre, il fut puissant dans tout le royaume d'Israël. Et les gens se prosternaient à sa présence et ils exécutaient ses ordres sans discuter. Il avait une incroyable autorité et il a reçu les plus grands honneurs dus aux gens de son rang. Comment a-t-il traité sa mère en tant que roi? C'est intéressant ça. Comment a-t-il traité sa mère en tant que roi? Sa mère s'appelait Bathsheba. Elle avait marié son père David suite à un péché qu'elle avait déplu à Dieu, qui s'était terminé par le meurtre de son mari, puisque Bathsheba était mariée avant de rencontrer David. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le livre 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Il est écrit, ceci, elle se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. C'est bien ça, deux rois, deux
Israël?
Non, ça va pour la référence. Je la donnerai la semaine prochaine.
Un roi. La même un roi.
C'est mieux?
Mieux.
2:19. C'est bon? Elle voulait avoir une conversation avec son fils, il s'était levé, il s'était prosterné, fils, un des rois les plus puissants que la planète a pu connaître, et il va avoir toujours gardé un saint respect pour sa mère. Il s'est levé, nous dit le texte, il s'est prosterné, il a demandé qu'un siège soit placé à côté de son trône afin de pouvoir parler avec sa mère. Il n'a pas dit à sa mère, hey, écoute, maman, j'ai pas le temps, attends une minute, tu vois bien comment je suis occupé. Salomon, il avait un saint respect pour sa mère. Pourquoi? Parce que il obéissait à ce moment-là au commandement de Dieu. Il dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, même les rois, il faut se rappeler qu'à l'époque, même les rois se levaient lorsque leur mère entrait dans la salle où siégeait le roi. Salomon n'était pas un roi parfait, ni un homme parfait. Aucun de ceux qui ont écrit les différents livres de la Bible n'était parfait, mais Dieu les a guidés pour que sa parole soit préservée et pour que nous puissions plonger les regards, entre autres, celles que nous retrouvons dans le livre des Proverbes. On pense souvent que le livre des Proverbes, frères et sœurs, est un livre dans lequel nous pouvons apprendre des choses sur la vie de tous les jours, et c'est en grande partie vrai, mais le but de l'auteur, c'est de tout ramener à Dieu afin qu'il devienne le centre de toutes choses. Prenez par exemple Proverbes chapitre 30, verset 8.
L'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Est-ce que vous voyez ce que ce verset dit au sujet de Dieu? cet homme sage prie, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je suis riche, je pourrais dire, qui a besoin de Dieu? Et c'est vrai, quand vous rencontrez des gens qui ont de l'argent, que vous leur parlez de Dieu, et on comprend pourquoi Jésus dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Le riche, finalement, il a tout ce qu'il veut. Il a besoin de personne. Il a besoin de rien. Et moi, je trouve que c'est très sage ici, ce passage-là. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Pourquoi? Parce que si je suis riche, je pourrais dire qu'il y a besoin de Dieu. Et si je suis pauvre, je pourrais voler. Et ça, Seigneur, ça te déshonorerait. Surtout si je m'affiche comme étant ton enfant, ça te déshonorerait si je devais voler. Pourquoi? Parce que tu es censé pourvoir à tous mes besoins. Et pourquoi est-ce mauvais? Est-ce parce que vous pourriez vous faire prendre et vous retrouver en prison ou encore parce que vous pourriez perdre votre réputation? Non, dit-il, mais parce que si je vole, je vais profaner le nom de Dieu ou salir sa réputation. Les richesses peuvent devenir un piège dangereux parce que la question principale, c'est Dieu. Et la pauvreté peut devenir dangereuse. Pourquoi? Parce que ça demeure toujours, le point central demeure Dieu. Le livre des Proverbes est le livre le plus pratique et le plus terre-à-terre de tous les livres de la Bible. Il a été écrit pour l'amour de Dieu, afin que nous ne renions pas Dieu dans la prospérité et que nous ne salissions pas la réputation de Dieu lorsque nous manquons du nécessaire. Et il y a 6 leçons qu'on retrouve dans les versets 7 à 9 qui se rapportent à Dieu et qui sont tous extrêmement pratiques. J'aimerais les regarder rapidement avec vous ce matin. Il y a d'abord l'origine de la famille. Salomon parle ici du fils qui parle de la fille, du garçon, de la fille, qui parle de la mère, qui parle du père, c'est quoi? C'est que pour lui, c'est clair que ça concerne la famille. Et la famille, elle faisait partie du plan de Dieu comme elle fait encore partie du plan de Dieu. Je ne regarderai pas tout ce qu'il y a sur la famille ce matin, on n'a pas vraiment le temps. Vous regardez sur Internet, mais tout ce que j'aimerais dire concernant la famille, c'est que Salomon prend pour acquis que les parents et les enfants sont liés ensemble dans une relation de responsabilité unique les uns envers les autres. Il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il dit pas qu'il y en a un qui a une responsabilité plus grande que l'autre. Il dit, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et c'est pas quelque chose que Salomon adresse seulement à son fils, mais cette parole s'adresse également à nous. Il y a des gens qui lisent le livre des Proverbes, ils disent, ah oui, mais ça c'était pour l'époque du roi Salomon. Mais le Seigneur, eh bien, sa parole, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est miraculeux, c'est que sa parole, elle s'adresse pour toutes les époques, parce que tous les êtres humains qui sont venus au monde après Salomon font partie de la même race, ont tous le même cœur tortueux que Dieu veut redresser à travers la rencontre d'une personne à la personne de Jésus-Christ. La famille, elle est un concept ordonné par Dieu dans la création. Amen. Amen, c'est important ça. Et aujourd'hui, on vit dans un monde terrible où les familles sont divisées, où les parents, où les enfants sont privés d'un père, sont privés d'une mère, où les enfants sont privés des deux. Et Dieu, dans sa grâce, réussit malgré tout à combler ce vide en leur donnant d'autres parents ou sinon à remplir leur cœur de son amour. Mais on vit dans un monde extrêmement difficile. Et moi, je vais être honnête avec vous, je suis content de ne pas être venu au monde dans cette génération, quoi. C'est pas réjouissant, s'il n'y a pas un réveil spirituel, c'est pas réjouissant ce qui attend les gens, quoi. Et en tant que parents chrétiens, on est là pour protéger nos enfants, quoi. On est là pour protéger les enfants que Dieu nous donne. La famille fait partie du plan de Dieu, elle existe pour glorifier Dieu. Mais Salomon ici suppose ceci dans le Proverbe 1, les versets 7 à 9, que la famille, elle est aussi une école, quoi. La famille est l'école de base pour instruire les enfants comment vivre dans le monde. Et moi, je me souviens, ma mère, à un moment donné, j'ai commencé à fréquenter une fille. Ma mère n'était pas instruite, hein. Peut-être finie en deuxième année. Mais elle était sage. Elle était sage, ma mère. Et je me souviens, ça faisait 6 mois que je fréquentais une fille, elle m'a dit, elle se mêlait de ses affaires aussi. Mais elle était très observatrice et un jour, elle m'a dit, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu penses de cette fille-là? Elle m'a dit, mon fils, cette fille-là, elle n'est pas pour toi. « Maman, tu connais rien, toi. Tu n'as jamais sorti. Hein? » Ah ouais. Mais ma mère n'avait pas eu besoin de sortir, fréquenter les boîtes de nuit ni les discothèques pour lire dans le cœur des gens, quoi. Ma mère, elle avait une grande sagesse, malgré qu'elle n'avait pas nécessairement l'instruction. C'est une femme qui était catholique à l'époque, qui avait une crainte de Dieu, qui n'était pas sauvée, mais qui avait la crainte de Dieu. Et elle avait cette sagesse pour lire dans les cœurs. Et Jésus a avoué 10 ans après que c'était pas trompé, quoi. Parce que c'était ma première peine d'amour et j'ai souffert, quoi. Et quand cette fille-là m'a laissé tomber, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais, je pense, 14-15 ans. Je suis rentré à la maison. Ma mère était dans sa chaise berçante. On dit ça ici, chaise berçante? Ou... Non. Vous savez, rocking chair. Oh, c'est français, ça. Merci, les Belges. Rocking chair. Voilà. Et elle avait sa robe là, qui pendait jusqu'à terre, et puis elle se berçait. Et la première chose que j'ai fait, je tombe à genoux en pleurant, en larmes, entre les deux jambes de ma mère, puis je pleurais. Aïe. Et là, elle me caressait la tête, elle savait pas quoi dire. Et finalement, ben quand j'ai vidé mon corps de toutes mes larmes, elle m'a dit, Jacques, si cette fille-là, elle t'aime, elle va revenir avant 40 jours. Et si elle revient après, tu n'en voudras plus. Mais j'ai compris après, hein. J'ai pas compris, du coup ça m'a consolé, hein. Je la voulais tellement cette fille-là. Hein. Mais je savais que, elle savait très bien que si pendant 40 jours j'étais capable de pouvoir la voir, la peine d'amour partirait, quoi. Hein. Et effectivement, cette fille-là, elle est venue au bout de 43 jours, quoi. Elle m'a dit, écoute, j'ai changé d'idée, l'autre, je l'aime pas, je préfère toi. J'ai dit, mon œil, toi, tu peux t'en aller, quoi. Ma peine d'amour était finie, quoi. Ma mère, elle lisait dans les cœurs et elle avait pas trouvé nécessairement de belles phrases à me dire. Mais elle avait su comment me consoler. Elle avait su exactement quoi me dire. Et le Seigneur dans nos vies, quand on est en souffrance, quand on a de la peine, je le répète, hein, pour ceux qui sont nés de nouveau, quoi, le Seigneur, il est capable de nous consoler. Il a les bonnes paroles, il a les paroles justes qui vont toucher notre cœur et qui vont nous remettre sur le chemin de l'espérance, sur le chemin de l'espoir. Parce que dans ce monde, il n'y a pas beaucoup d'espoir, il n'y a pas beaucoup d'espérance. Mais en Christ, tout est possible, frères et sœurs. Et ici, le psalmiste, il nous rappelle que c'est facile de juger nos parents. C'est facile de leur dire, hey, toi, tu n'as jamais sorti, tu connais rien. Tu n'as jamais fréquenté les discothèques, tu t'es jamais saoulé, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait ça. Mais il faut toujours se rappeler que nos parents sont venus au monde avant nous. Ça, c'est ce que mon père me disait, ça. Ouais. Tu connais rien de père, ouais. Père, il disait, moi, je suis venu au monde avant toi. Et ils avaient raison, nos parents, quoi. Ils le font pourquoi? Ça ne nous fait pas plaisir, mais ils le font pour nous protéger. Ils le font pour nous éviter des mauvaises expériences qu'on risque de porter comme cicatrices toute notre vie, quoi. Quand il nous disait, ma mère me disait, ça, c'est pas un gars pour toi, ça, c'est pas une fille pour toi, elle avait raison. Et je dois avouer que même si j'avais pas des parents parfaits aujourd'hui, jamais, jamais, mon père ni ma mère m'ont donné un mauvais conseil. Jamais. Mais mes amis, oui, par exemple. Parce qu'il y a des amis qui n'avaient rien à cirer de leurs parents, qui me poussaient à désobéir à mes parents. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Moi, si je ne suis pas devenu un bandit, c'est parce que le fond était bon. Ouais. Quand mes copains allaient faire des vols, moi, je disais non. Pourquoi? Parce que ce que j'avais reçu de mes parents, c'était dans mon cœur, quoi. C'était quelque chose, c'était une barrière que je ne pouvais pas franchir de faire des vols, de dévaliser des banques, et ainsi de suite. La famille est une école. Le père est un instructeur et la mère est une enseignante. Par conséquent, la famille est une école de formation. Dieu n'a non seulement ordonné que l'homme et la femme soient féconds et remplissent la terre, mais il a ordonné de remplir la terre en instruisant et en enseignant les enfants. La famille est l'endroit où la prochaine génération apprend comment elle doit vivre et se comporter dans le monde. Et pourquoi je vous dis que moi, je suis content de ne pas être venu au monde dans cette génération? Parce que si la famille est l'endroit où la prochaine génération apprend comment elle doit vivre et se comporter dans le monde, quand vous regardez les familles qui sont disloquées, quand vous regardez le chambord qu'il y a dans le monde, rappelez-vous que ces gens-là qui ont vécu sans famille, ce sont les gens qui sont appelés peut-être à nous diriger un jour, quoi. Et moi, ça me fait peur pour mes propres enfants, quoi. Ça me fait peur pour mes petits-enfants si le Seigneur n'est pas revenu, quoi. On a des gens à l'extérieur qui ne sont pas nécessairement équilibrés à 100%, hein. Il y a un très, très bon livre qui a été écrit, c'est Fou qui dirige le monde. Et quand vous lisez, là, c'est épeurant, quoi. C'est épeurant. Heureusement qu'on a l'Église. Heureusement qu'on a le Seigneur. Heureusement qu'on a la famille de Dieu. Heureusement qu'on a la parole pour nous diriger. Heureusement qu'on a la parole pour nous rappeler que Dieu est en train de préparer un autre monde pour nous, quoi. Un autre monde. Où ce n'est pas les hommes qui vont diriger ce monde, mais que c'est lui qui va le diriger, quoi. Ouais. Le réflexe de téter vient naturellement, le réflexe de tomber vient naturellement, et l'iris de l'œil se ferme naturellement lorsque la lumière brille. Nous n'avons pas besoin d'apprendre à pleurer lorsque nous avons faim. Mais ces choses que nous savons faire de façon naturelle ne nous mèneront pas très loin dans le monde. Les êtres humains doivent tout apprendre concernant les choses les plus élémentaires de la vie. Ils doivent apprendre à marcher, ils doivent apprendre à parler, ils doivent apprendre à manger, ils doivent apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, à respecter leur prochain, à être courtois et découvrir l'œuvre de pardon que Jésus a accomplie à la croix pour eux. La famille est donc l'école que Dieu utilise pour cette énorme tâche qui est d'enseigner à la prochaine génération comment vivre dans ce monde et pour se préparer pour la prochaine génération qui suivra. Même si les parents vont chercher de l'aide auprès de d'autres parents, auprès des nounous, dans les garderies, à l'école du dimanche ou dans les écoles publiques, la responsabilité de l'éducation des enfants demeure encore et toujours celle des parents. Et nous, parents, nous savons que nous rendrons compte à Dieu sur la façon dont l'esprit et le cœur de nos enfants ont été façonnés et modelés par les éducateurs et les spécialistes en qui nous avons placé notre confiance. Il y a quelque chose qui nous est passé sous le nez depuis des années, et il n'y a personne qui s'est levé. Aux États-Unis, ça bouge plus, au Canada aussi. C'est qu'on a permis à nos professeurs, à nos écoles publiques, d'enseigner nos enfants sur la sexualité. Ça, c'est un droit, je pense, qui revenait strictement aux parents. On a permis à nos dirigeants d'école d'enseigner nos enfants sur la sexualité. À Québec, au Québec des jours primaires, on apprend aux enfants que coucher avec une femme, deux femmes ensemble, c'est normal, deux hommes ensemble, c'est normal, à trois, c'est normal. Vous voyez comment les gens du monde peuvent être désarmés face à l'éducation. Comment je peux pas comprendre qu'une femme monoparentale puisse être en mesure d'éduquer des garçons, quoi, de tenir bon avec des garçons aujourd'hui. Surtout dans des familles normales, on a de la difficulté à contrôler souvent nos enfants, quoi, à les gérer. C'est aux parents à donner l'éducation sexuelle aux enfants. C'est aux parents à dire ce qui est normal, ce qui n'est pas normal en fonction de la parole de Dieu. La famille est l'école de base de Dieu pour instruire les enfants à vivre dans ce monde. Le fondement de l'instruction familiale, l'auteur des Proverbes va le répéter régulièrement, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. En d'autres mots, si nous nous demandons quelle est la base et le comportement et le commencement de ce qui doit être le thème dominant de l'instruction du père et de l'enseignement de la mère, c'est d'abord et avant tout la crainte du Seigneur. Et moi, je vais vous dire une chose, en tant que pasteur, j'espère que vous ne me congédierez pas après. Moi, s'il y a des péchés que je ne commets pas, c'est à cause de la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Quand vous pensez que vous commettez un péché, que vous le faites sciemment, et que Dieu peut dire, écoute, ton cœur, il arrête de battre, je te rappelle à toi pour que tu rendes des comptes. Moi, ça m'empêche de commettre des péchés, beaucoup de péchés. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu tient sa vie entre nos mains. Crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est la première chose que nos enfants ont besoin d'apprendre. Moi, à l'époque, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur Jésus, ce qui m'empêchait souvent de faire des bêtises. Bon, il y avait le bâton de mon père, c'est vrai. Et c'était la crainte de mes parents qui compensait pour la crainte du Seigneur. Moi, je vais vous confesser, je viens d'un milieu le plus criminalisé à Montréal. La plupart de mes copains avec qui je me suis tenu ont tous été descendus par la police ou pris dans des règlements de compte. Mais ce qui m'empêchait de passer, moi, à l'impardonnable, c'était la crainte de mon père à l'époque, quoi. Et l'éducation que j'avais reçue quand j'étais jeune. Et si on éduque nos enfants dans les voies du Seigneur, si on leur apprend à connaître la crainte de l'Éternel, tôt ou tard, la parole ne se contredit pas, tôt ou tard, nos enfants vont se tourner vers le Seigneur. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Moi, plus je vis, et moins j'ai des reproches à faire à mes parents. Parce que je me dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Moi, dans mon cœur, je suis convaincu que ma mère, elle a sacrifié sa vie pour ses 8 enfants. Et plus je vieillis, et plus j'aimerais donc les revoir et les embrasser. Mon père, il est venu au Seigneur, pourquoi, avant de mourir? Parce que je lui ai demandé pardon pour toutes les folies que j'ai faites. J'ai dit, écoute, j'ai peut-être pas tout mérité les coups de bâton que tu m'as donnés, mais il y en a quelques-uns que je méritais. Moi, la psychologie, ça me rentrait par une oreille, ça me sortait par l'autre. À 12 ans, me mettant en punition dans ma chambre, je sortais par la fenêtre, je m'en allais, si mon père m'avait laissé faire, je serais devenu un véritable voyou, quoi. Mais mon père, il m'attendait. Il était toujours là de m'attendre quand je revenais. Ouais. 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 Et heureusement. Heureusement. Il n'y a peut-être pas la bonne méthode, mais c'est la méthode qui fonctionnait avec moi. La famille n'est pas seulement un endroit où les enfants apprennent à tenir leur cuillère, à se tenir sur leurs deux pieds, ni à dire s'il vous plaît, à apprendre à lire ou encore à attacher leurs chaussures, à couper le gazon, à se maquiller et à conduire une voiture. La famille est l'endroit où on apprend non seulement tout cela, mais plus encore, elle est l'endroit où les enfants apprennent à connaître Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu pour les diriger dans la vie, et que tout ce qu'ils font doit servir la gloire de Dieu. La crainte de Dieu, le respect de Dieu, se tenir dans la présence de Dieu, faire confiance à Dieu, c'est ça à quoi sert aussi et surtout la famille. Et quand je parle de la crainte de Dieu, c'est pas le Dieu comme mon père avec un bâton, c'est aussi être équilibré dans notre message, dans notre façon d'éduquer nos enfants, la justice de Dieu et aussi l'amour de Dieu. C'est important de parler de l'amour de Dieu à nos enfants. La crainte de l'Éternel, la famille fait partie, du plan initial de Dieu. La famille est une école et le thème unificateur dans le programme de cette école, c'est Dieu. Verset 8, la responsabilité des parents. Le père et la mère, nous dit ici l'auteur des Proverbes, sont responsables d'instruire cette famille que Dieu leur a donnée. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il n'est pas écrit, père, instruisez les enfants et mère, changez les couches. Il n'est pas écrit, père, parce que vous travaillez à l'extérieur, vous n'êtes pas responsable d'enseigner vos enfants. Il n'est pas écrit, mère, parce que vous travaillez à l'extérieur, vous devez donner la responsabilité au professeur d'école d'éduquer vos enfants. C'est pas ça qui est écrit. Il est écrit, père, instruisez-vous les enfants et mère, enseignez-les. Autant le père et la mère partagent cette responsabilité. Amen. Les deux. Et vous voyez le drame quand une famille est monoparentale, que le père est tout seul pour élever les enfants, que la mère est tout seule pour élever les enfants. Il manque une partie importante. Si c'était la fête des pères, aujourd'hui, je lancerais probablement un défi aux pères, pour prendre de nouvelles initiatives à la maison. Mais c'est la fête des mères et je vais encourager les mères ce matin en disant que cette responsabilité d'enseigner vos enfants est un privilège dont vous ne pouvez pas mesurer l'importance. Dans sa lettre, John Wesley a très, très peu de passages sur son père. Mais sur sa mère, il dit, ce que je suis devenu, c'est grâce à ma mère. Elle avait 19 enfants. Et ils avaient un rendez-vous avec elle à chaque semaine pour plonger leur regard dans la parole. Elle avait comme principe qu'aucun des enfants n'obtiendrait quoi que ce soit à travers les larmes. Tu vas me parler, je vais m'occuper de toi. Quand tu auras arrêté de pleurer, tu ne gagneras rien par les larmes. Et John Wesley dit, tout ce que je suis devenu dans ma vie, c'est grâce à l'éducation que ma mère m'a donnée. 19 enfants, elle aurait pu crier à l'aide. Il n'y a pas d'électricité à cette époque-là. Pas de lave-vaisselle. Pas de laveuse. Pas d'eau chaude pour donner le bain aux enfants. Nous vivons dans une époque où les mères qui prennent le temps d'enseigner leurs enfants sont marginalisées. Combien de fois certaines personnes sont venues vous voir pour savoir si votre épouse travaillait à temps plein ou si elle était seulement une mère au foyer? Voici ce qu'une femme fatiguée de se faire limiter à n'être qu'une mère au foyer a répondu dans une émission radiophonique. Essayez de retenir tout ça, mesdames. J'aimerais énumérer ce que je suis appelée à faire, dit-elle, en tant que mère au foyer. Je suis une épouse, une mère, une amie, une confidente, une conseillère, une arbitre, ça va commencer à nous coûter cher les hommes, une conciliatrice, une femme de ménage, une blanchisseuse, une décoratrice d'intérieur, une jardinière, une peintre, une poseuse de tapisserie, une toiletteuse pour le chien, une vétérinaire, une esthéticienne, la facture commence à monter les gars, hein? Une coiffeuse, une couturière, celle qui note les rendez-vous de tous les membres de la famille, une planificatrice financière, une comptable, une infirmière, celle qui fait la discipline, une psychologue, une experte en relations publiques, une diététicienne, ouais. Avec l'accent québécois, c'est pas facile à sortir, une nutritionniste, une boulangère, un chef cuisinier et un coordonnateur de la mode. Et là, elle dit, à partir de ce que je viens de décrire, elle lance ça sur les ondes radio, hein, il en coûterait plus de 75 000 euros par année si on devait me remplacer. Les hommes. Et dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui croient qu'une femme au foyer, dit-elle, n'est rien de plus qu'une gardienne d'enfants, qui demeure assise toute la journée à regarder des émissions comme Les Feux de l'amour, Dallas, et j'en passe. Si vous voulez avoir, là j'ai pris une petite, un paragraphe, ça vient d'une dénommée Anne Landers, qui a mis ça sur, dont on a gardé l'écrit sur Internet. Ça se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Permettez-moi de vous donner un exemple que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Tenez avec moi dans 2 Timothée. J'aimerais vous rappeler l'effet que la mère et la grand-mère de Timothée ont eu dans sa vie. 2 Timothée, chapitre 1. Verset 5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il continue au chapitre 3, versets 14 et 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sache de qui tu les as apprises, entre parenthèses, de ta grand-mère et de ta mère. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres, parce que ta mère les enseignait, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Quel témoignage remarquable, n'est-ce pas? Le père de Timothée était grec. Si vous allez dans Actes chapitre 16, versets 1 et 3, on apprend que le père de Timothée, il était grec. Il ne connaissait probablement pas les Écritures. Alors, Paul célèbre le grand héritage que Timothée a reçu de sa mère et de sa grand-mère ici. Elles ont fait ce que son père ne pouvait pas faire ou n'aurait pas fait. Elles ont nourri son cœur avec les Écritures et cette parole qu'il a reçue des Écritures l'a conduit finalement à recevoir Christ et la foi en Christ lui a apporté le salut. Timothée vivra éternellement dans la présence de Dieu parce que sa mère et sa grand-mère furent fidèles au verset 8 du chapitre 1 du livre des Proverbes. Enseigne ton enfant dans les voies du Seigneur. Verset 8, on va retourner dans Proverbes. Au verset 8, Dieu appelle les garçons et les filles à se soumettre à leurs parents. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ces deux commandements mettent en garde contre les deux tensions les plus courantes de rébellion. La première tentation fait référence à un enfant qui vit toujours avec ses parents, et la deuxième tentation fait référence à un enfant qui a quitté la maison des parents. S'il vit toujours à la maison, la tentation consiste à ne pas écouter lorsque ses parents parlent. Ça vous est déjà arrivé? Je suis tout seul ce matin, moi. Voilà pourquoi Salomon dit, écoute l'instruction de ton père. Si l'enfant n'habite plus chez ses parents, la tentation consiste à rejeter ce qu'ils lui ont enseigné. Voilà pourquoi Salomon dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Jeune Jean dit Salomon, lorsque vous habitez avec vos parents, écoutez-les. Ne rejetez pas du revers de la main ce qu'ils vous disent, faites-le par amour pour Dieu, parce que c'est tellement important à ses yeux. Que cela fait partie d'un des 10 commandements qui résume toute la loi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Écoutez, il y a une promesse, hein. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre vieux, quoi. Tu veux mourir jeune? Déshonore tes parents. Tu veux mourir jeune? Méprise tes parents. Parce que tu vas à l'encontre d'un commandement dans Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Honorez votre père en l'écoutant respectueusement lorsqu'il parle, dit Salomon ici. Et honorez votre mère en vous rappelant ce qu'elle vous a enseigné en ce qui concerne ce qui était bien, ce qui était mal. lorsqu'elle vous a parlé sur la crainte de Dieu. Verset 9. Finalement, Dieu a décidé qu'une récompense serait donnée aux garçons et aux filles qui ne rejettent pas l'enseignement de leurs parents. Parce que vous avez écouté, hein, c'est ce que ça veut dire, parce que vous avez écouté l'instruction de votre père et que vous n'avez pas rejeté l'enseignement de votre mère, il y a une couronne de grâce qui est réservée pour ta tête et une parure pour ton cou, dit-il. Souvent, ça, on passe par-dessus, hein, parce qu'une couronne de grâce, on dit, c'est quoi ça? Et une parure autour de mon cou, c'est quoi ça? Ce que ce verset montre, c'est que l'instruction du Père et l'enseignement de la Mère, enracinés dans la crainte du Seigneur, sont une source de bénédiction. La couronne de grâce, elle fait référence, elle est synonyme de bénédiction. Dieu déverse sa grâce sur ceux qui honorent leur Père et leur Mère. Il y a des promesses qui accompagnent ça. Les enfants ne le perçoivent toujours pas nécessairement, et il arrive aussi quelquefois que les parents, qui n'ont pas nécessairement progressé dans leur foi, ne le perçoivent pas eux aussi. Mais c'est ce que dit ce verset. Écoute l'instruction d'un père et ne pas rejeter l'enseignement d'une mère correspond à recevoir une couronne de grâce, de gloire et de joie semblable à un collier autour de votre cou. Le collier autour du cou, il est apparent. Ça veut dire que les bénédictions que tu vas recevoir, tu ne pourras pas faire autrement que de dire « elles viennent de Dieu ». Elles ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu. Et je vais aller plus loin que ça. Cette bénédiction, elle s'adresse... Écoutez, là, Dieu sort de son cadre. Parce que les promesses, elles sont faites pour tout le monde. Dieu sort de son cadre ici. Les promesses, elles sont pour les garçons et les filles. Elles sont réservées aux garçons et les filles, cette promesse. C'est extraordinaire, ça. C'est pas souvent que Dieu fait des exceptions dans sa parole. Mais c'est bien ce que le passage dit, hein? Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'un jour, Dieu va permettre que tu participes à la victoire remportée par Christ à la croix, que tu vas bénéficier de sa résurrection, et qu'un jour, il te ramènera aussi de la mort à la vie pour que tu puisses régner avec lui dans le royaume des cieux pour l'éternité. Une couronne de grâce, c'est la couronne de justice, c'est la couronne de victoire, c'est la couronne incorruptible que personne ne peut vous voler. Amen. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Paul rajoute une autre chose. Écoute, tu veux pas avoir Dieu contre toi? Tu es un garçon, tu es une fille, tu te penses meilleur que les autres? Désobéis à tes parents quand tu te désobéis à tes parents. Eh bien, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Paul rajoute quelque chose d'extraordinaire ici, hein? Afin pas juste que tu vives longtemps, mais que tu sois heureux. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Parce que vivre longtemps en étant malheureux, c'est vivre longtemps, mais très très longtemps, quoi. Le temps est long, quoi. Mais ici, c'est de vivre, écoute, honore ton père et ta mère. Tu aurais peut-être voulu en avoir d'autres. Mais c'est ceux-là que tu as. Et c'est vrai qu'on ne choisit pas nos parents. Et c'est vrai aussi que les parents ne choisissent pas leurs enfants. Les enfants, ce n'est pas comme une commande d'épicerie, hein. Avoir le grand format, les cheveux ici, les cheveux ça, hein? Même si les hommes aspirent à ça un jour. On ne les choisit pas, hein. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu connaît toutes choses depuis toute éternité. Il sait qu'on vit dans un monde qui n'est pas le sien. Et dans sa grâce, si on honore nos parents, Dieu, il y a la bénédiction. La bénédiction qui suit, c'est ce qu'il dit. Ce que ce verset montre, c'est que l'instruction du Père et l'enseignement d'une mère enracinée dans la crainte du Seigneur sont une source de bénédiction, je le répète. Et Paul dit dans Éphésiens 6, 2, « Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux, que tu vives longtemps. » Tous les commandements contiennent des promesses, mais Dieu sort de façon inhabituelle ici. Et cette promesse, elle s'adresse aux jeunes, elle s'adresse aux garçons, elle s'adresse aux filles. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité car il protège ses enfants. Elle est une source de vie et permet d'éviter des erreurs mortelles. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Avant de terminer, je dis donc que dans ma vie, j'étais plus désobéissant à mes parents que j'étais obéissant. J'ai fait des choses en cachette par rapport à mes parents. Et je me suis tenu en gang à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et ça arrivait que je partais, si on faisait du pouce. On dit, c'est ici faire du pouce, oui. Du stop. OK, nous, on dit faire du pouce, puisqu'on utilise le pouce. Et on partait durant les vacances d'été, le matin très tôt. Ma mère pensait que j'étais au parc. On partait deux par deux, on se mettait un coin de rue différemment sur un grand boulevard pour aller 15-20 km plus loin, aller se baigner dans une rivière. Et ce jour-là, on s'est lancé le défi qu'on traverserait la rivière à la nage. Et moi, juste en plein milieu de la rivière, j'ai paniqué, je commençais à couler, quoi. En nageant, j'ai vu que le courant était beaucoup trop rapide, et là, j'étais plus capable d'avancer ni reculer, quoi. Et il y avait un copain juste derrière moi, il en restait un derrière moi, quoi. Qui a vu, je sais pas comment il a vu, il était pas tellement plus vieux que moi, mais qui a vu que là, si quelqu'un venait pas me chercher, je coulerais, quoi. Et qui m'a ramené. Qui m'a ramené d'où j'étais parti. Et en tant que chrétien, ben je me dis où je serais si j'avais coulé, quoi. Où je serais, quoi, aujourd'hui. Alors pour les enfants, les adolescents qui sont ici, c'est beaucoup plus facile de juger les parents. C'est beaucoup plus facile. Mais nos parents sont tous imparfaits. Ils ont tous des faiblesses. Ils ont tous des qualités. Et dans nos familles, on doit gérer avec ses défauts. Et ces qualités qu'ils ont, avec leur expérience, leur bagage, leur vécu, qui peuvent être souvent plus atroces que ce que nous on vit avec eux. Mais je suis persuadé d'une chose, il n'y a pas un parent plus profond de son cœur qui peut dire qu'il n'aime pas ses enfants. On peut le dire pour leur faire du mal, pour les arrêter parce qu'on en aura le bol, des fois on ne sait pas quoi dire. Mais dans mon cœur, je suis convaincu que tous les parents aiment leurs enfants, à moins d'être complètement détraqués, quoi. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, là. Vous voyez? Cette semaine. Les gens sont détraqués dans notre société, quoi. Les trois enfants, les trois filles qui ont été enlevées il y a 10 ans. Et une des mères qui est morte de chagrin, quoi. Ça se rachète pas, quoi. Cette mère est pas morte de chagrin parce qu'elle détestait sa fille. Je pense que mes parents, et aujourd'hui, je suis convaincu que mes parents, ils m'ont aimé. Comme aucun autre parent aurait pu m'aimer. Parce que c'était celui-là que Dieu avait choisi pour moi. Et si j'avais pas eu ces parents-là aujourd'hui, je serais pas ici devant vous. Je sais même pas si je serais vivant. Vous savez, mon père, il me tapait à coups de bâton. Et quand je n'étais pas rentré à l'heure, ma mère, elle laissait tomber les 7 enfants, puis elle partait dans la rue, puis elle venait me chercher, quoi. Jusqu'à 14 ans, quoi. Il y a 14 ans, tu fais ton dur, hein. T'as été copain, 15 ans, 20 ans de copain, puis là, ta mère, elle dit, Jacques! Maman vient te chercher. Ouais. J'ai tellement fait suer mes parents hein, que ma mère faisait de l'Alzheimer. Elle avait perdu la mémoire depuis 3 ans. Et quand les infirmières à l'hôpital lui disaient, Madame Midon, votre fils Jacques vient, elle avait une réaction, elle clignait des yeux. Ouais. Ouais. Et ça m'a permis de l'amener au Seigneur, quoi. Mon père, c'est la même chose. J'ai demandé pardon avant qu'il me demande pardon. Et s'il m'a pleuré comme un veau. Le Seigneur m'a dit, écoute, si t'attends qu'il te demande pardon, tu vas attendre longtemps. Il est sur le chemin de l'enfer, tu choisis, t'attends qu'il te demande pardon. De toute façon, mon père, il ne parlait plus. Il était paralysé à moitié d'un côté, il avait perdu l'usage de la parole. Il dit, papa, je te demande pardon. Pardon pour toutes les misères que je t'ai faites. Et là, j'ai vu qu'il pleurait. Il pleurait. Et je dis maintenant que dans quelques semaines, tu vas rencontrer le Seigneur et t'es pas prêt. Moi, j'aimerais te parler de l'expérience que j'ai vécue avec Jésus-Christ. Et il a pris une décision pour le Seigneur. Ouais. Si j'avais attendu que mon père me demande pardon le premier, j'attendrai encore. Et il serait dans le séjour des morts en attente du jugement. Et je loue le Seigneur de m'avoir donné des parents, comme j'ai eu. Je peux le dire à 63 ans, je ne l'aurais peut-être pas dit à 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais en vieillissant, je vous le dis, surtout quand on commence à avoir des enfants. Ouais. Là, on s'aperçoit des fois, à travers les expériences qu'on vit avec nos enfants, combien on n'a pas nécessairement été toujours facile avec nos parents. Et ils ont peut-être eu plus de patience, ou s'ils en ont eu moins, c'est parce qu'on était peut-être plus turbulents que les enfants que Dieu nous a donnés pour l'instant. Mais le Seigneur est gracieux, le Seigneur est bon. Puisque c'est la fête des mères aujourd'hui, peut-être que la façon dont nous devrions terminer ce message, c'est en se rappelant, en tant que garçons et filles, que nous soyons jeunes ou âgés, que la source de vie, la confiance à toute épreuve et la profonde satisfaction qui viennent ou qui suivent pour avoir honoré toutes les paroles de vérité que nos mères nous ont enseignées. Retourne aussi à elles comme une couronne de joie, d'honneur et de bénédiction dans leurs vieux jours. Quelle joie pour des parents de dire, écoute, finalement, j'ai pas perdu mon temps à éduquer mes enfants, quoi. Merci Seigneur pour cette récompense que tu me donnes avant de mourir, de voir mes enfants qui marchent dans tes voies et qui suivent les pas de Jésus-Christ. Dans le Proverbe 23, verset 25, le psalmiste dit, pardon, l'auteur des Proverbes dit que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'on puisse prier pour nos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, qu'on puisse prier aussi pour nos parents qui ne sont pas encore au Seigneur. Et que ce matin, si aujourd'hui, malgré, même si on a des différends, et si c'est dans la mesure du possible, qu'on puisse aller voir nos parents, adoptifs ou non, qu'on puisse aller les trouver, les embrasser, et leur dire, maman, merci pour la patience que tu as envers moi. Merci pour la patience que Dieu t'a donnée pour moi. Merci pour l'amour que Dieu t'a donné envers moi. Merci, maman. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, parce qu'à travers nos faiblesses, tu œuvres dans nos vies pour nous amener à ressembler, pour nous amener à te ressembler. Seigneur, je veux prier pour ceux et celles qui n'ont pas connu leurs parents. Te demander, Seigneur, de combler ce vide par ta présence dans leur vie. Je te demander de combler ce vide en plaçant sur eux des parents, Seigneur, qui seront responsables, qui t'appartiennent, dont leur cœur t'appartienne, et qui pourront combler ce vide, Seigneur, que ces enfants n'ont pas reçu de leurs parents. Seigneur, nous savons que tu es au-dessus de toute chose, nous savons que rien n'est impossible. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir d'une manière toute particulière. Je veux te prier aussi pour les enfants qui ont leur mère et leur père depuis toujours. Qu'ils puissent, Seigneur, aussi aller vers leur maman, les embrasser, malgré leur faiblesse, Seigneur, eh bien, se rappeler que c'est pour leur bien que tu as placé ses parents sur leur chemin, qu'un jour, Seigneur, ils te seront reconnaissants. Bénis, Seigneur, cette communauté. Bénis cette Église. Merci pour la famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci aussi parce que dans cette famille, Seigneur, nous sommes tes enfants, les enfants de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de ton royaume et nous attendons ton retour le plus rapidement possible. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.